quatrième émission sur les scouts de France, en particulier à partir du livre de Philippe Lanéry, chercheur au CNRS, Les scouts de France, l'évolution du mouvement depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Autour du micro, pour accueillir ses premiers propos et réagir, Michel Raveau et Jean-Louis Bosse qui font partie de l'équipe départementale. Troisième émission, la première c'était les origines, la deuxième l'affirmation du mouvement, la troisième émission était consacrée à cette période difficile de la guerre, l'ébranlement des certitudes, après-guerre, redistribution des cartes. On se demande au fond à qui s'adresse le mouvement avec deux tendances, une c'est un mouvement de masse, autre réponse possible, c'est plutôt pour une élite. Au fond, Philippe Lanéry, vous nous avez bien dit qu'à ce moment-là, deux objectifs, au fond, cohabitent et c'est en profondeur qu'un clivage peut s'effectuer. C'est ce que vous avez entendu, Jean-Louis Bosque, en fait, vous rappelle des souvenirs ?
Oui, tout à fait. Dans les années 50, étant moi-même petit scout, j'ai connu l'époque où il y avait l'élevé des couleurs, les coups de sifflet, l'époque raidère, enfin, et il y avait quand même déjà l'idée que petit à petit, on allait se dépouiller de ces aspects vers un scoutisme effectivement plus proche de la masse. Enfin, j'ai connu aussi, alors étant chef scout cette fois dans les années 60, l'époque où on a introduit les pionniers scouts et où avec le rôle de l'entreprise, des conseils, enfin ce que l'on vit actuellement. Et l'étude ici faite est vraiment passionnante parce que ça permet de situer toute l'évolution du mouvement qui m'apparaît effectivement très riche.
Donc deux tendances, est-ce que c'est trop c'est caricatural de dire, Philippe Lanéry, au fond il y aurait une tendance élitiste qui viserait plus la conception d'un ordre quasi religieux et puis une autre tendance alors plus apostolique qui s'adresserait à tout le monde, à tous les jeunes?
Oui, ben c'est forcément un petit peu caricatural. Bon, je l'ai dit moi-même à l'émission précédente, mais je crois qu'il faudrait préciser un tout petit peu en 5 minutes. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que la tradition baden-powellienne? Il faut y revenir un petit peu. C'est une méthode éducative qui est souple, qui est originale, qui est inventive, qui est ni trop rigoureuse, ni trop laxiste, et qui est adaptable essentiellement aux adolescents, mais aux adolescents de tous les milieux sociaux, pratiquement sans exclusive. Cette méthode s'appuie sur une loi scout, qui, si on la regarde de près, n'est guère plus qu'un code de bonne conduite. Les modèles de référence, ce sont les aînés qui ont réalisé quelque chose de bien, les aventuriers, les grands hommes du Royaume-Uni, les scouts qui ont fait preuve de courage ou d'héroïsme, ou bien les aviateurs de la Royal Air Force, par exemple. Ce sont des modèles qui sont relativement proches, qui sont accessibles, concrets, parfois récents. Hein. Bon, en gros, c'est une méthode qui se distingue par son adaptabilité à l'évolution de la société. La tradition française du père Doncoeur, qui lui-même était inspiré par Charles Péguy, c'est celle d'un scoutisme pur et dur, qui est destiné en priorité aux aînés, les routiers, et aux grands scouts de la branche éclaireur, à partir de 15 ans. Le père Doncoeur ne fait d'ailleurs que porter aux extrêmes, à des altitudes extrêmes, la méthode francisée, c'est-à-dire ultra-catholique, qui a été mise sur pied dès les années 20 par le père Sevin, notamment, et par un certain nombre de chefs laïcs. Les routes du père Doncoeur, terriblement dures, ressemblaient symboliquement à des chemins de croix. Et les héros du scoutisme français sont des saints ou des martyrs, c'est Saint-Louis, c'est Jeanne d'Arc, c'est le père de Foucault, ou bien alors des héros légendaires de la France ou de l'Empire français, Bayard, le maréchal Foch, Guynemer, il n'y a qu'à voir le nom des unités scouts d'ailleurs à cette époque. Et les exigences de la loi scout française, mais c'est autre chose que celle de la loi de l'éclaireur britannique, c'est très intéressant de les mettre côte à côte et puis en parallèle. Je vais prendre 3 exemples. Bon. L'article 3 de la loi scout de l'époque, hein, parce qu'elle a été modifiée dans les années 60. On y reviendra. Qu'est-ce que dit la version originelle, la version de Baden-Powell? C'est le devoir de l'éclaireur d'être utile aux autres et de leur venir en aide. Les scouts de France disent, eux, le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Et sauver, ça va plus loin. Bon. L'article 7. Un éclaireur obéit aux ordres de ses parents, de son chef de patrouille ou de son instructeur sans poser de questions. Bon. Faut pas oublier que Baden-Powell était un militaire. Hein.
On a vu aussi que la guerre a amené beaucoup de scouts devenus adultes à se poser des questions.
Oui, alors cet article 7 va en poser beaucoup d'ailleurs, ne serait-ce que pendant la guerre. Parce que l'article 7 de la loi française dit « Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié ». Mais pour un scout qui est imprégné de la loi scout, désobéir au maréchal, c'est horrible, et on va le revoir pendant la guerre d'Algérie aussi. Désobéir aux ordres, quelquefois dans certaines situations tout à fait tragiques, hein, où les méthodes utilisées par l'armée française pendant la guerre d'Algérie n'ont pas toujours été celles qu'un scout peut admettre. Mais c'est tragique, il y a conflit entre deux articles de la loi, et pour un scout qui est imprégné de la loi scout, c'est quelquefois tragique.
Et puis, beaucoup vont redécouvrir, au fond, que l'ultime loi, c'est celle de la conscience.
Voilà. Et chose curieuse, on a redécouvert tout à fait récemment que le Percevin l'avait déjà dit. Bon. Et puis, je prends le dernier exemple, c'est l'article 10. Un éclaireur, dit Baden-Powell, est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. À la limite, ça pourrait être interprété comme un conseil hygiéniste. Mais les scouts de France disent, eux, le scout est pur. Il est pur, et d'ailleurs ils le disent toujours, enfin la formulation est différente, mais le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Bon, c'est évidemment une dimension morale beaucoup plus affirmée.
Et cette version adoptée par les scouts de France, elle date de quelle année? Alors c'est cette nouvelle façon de libeller la loi scout.
Ah, elle date des origines des scouts de France, elle date de 1920 ou 22, enfin du moment où ça a été codifié. Et si on prend le texte de la promesse également, qui est tout à fait intéressant, la version de Baden-Powell, c'est « Je promets sur mon honneur que je ferai de mon mieux pour accomplir mon devoir envers Dieu et le roi, pour aider autrui en tout temps, pour obéir à la loi de l'éclaireur. » Qu'est-ce que dit la version française ?« Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, qui par définition ne fait pas défaut, n'est-ce pas ?« Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et la patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi scout. » Il n'y a pas d'échappatoire, hein, c'est beaucoup plus exigeant. En quelque sorte, les scouts de France ont intériorisé leur loi comme si c'était des décrets d'application de l'Évangile. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut traduire, et avec la même valeur, avec la même puissance.
Et derrière cet infléchissement, est-ce qu'il n'y a pas le rêve, effectivement peut-être un peu de Peggy et d'autres, qui est de penser que l'Évangile dicte un comportement, et y compris parfois politique?
Tout à fait, oui. D'ailleurs, on va le revoir, parce que c'est un problème qui va rester sous-jacent dans toute l'évolution du mouvement. Alors, comment tout ça va se traduire concrètement? Parce qu'il faut quand même qu'on avance un petit peu. D'abord par une divergence de plus en plus accentuée entre les orientations de la route et celles de la branche éclaireur, notamment à la fin des années 40 et presque tout au long des années 50, plus précisément jusqu'en 1957. Alors la branche éclaireur, elle est dirigée depuis 1946 par Michel Menu. Bon, cet ancien résistant qui a combattu sous les ordres de Delatte de Tassigny est un homme de tradition militaire et un disciple du Père Doncoeur. Il va donc conserver intégralement les bases fondamentales du scoutisme français d'avant-guerre, sans rien y changer. Un scoutisme dur et exigeant par conséquent. Par contre, il va modifier considérablement la méthode éducative dans ses applications concrètes. Et ça va donner les raidaires. Les raidaires, ce sont des super scouts. Des super scouts qui ont eu un béret vert, comme celui de certaines unités de parachutistes, et à qui on propose non plus des jeux de piste ou des recherches de messages ou de faire des nœuds, n'est-ce pas, ou du morse au sifflet sur 100 mètres de distance, mais de s'initier à des techniques tout à fait modernes, de s'initier aux techniques radio avec des talkie-walkie, de s'entraîner avec les pompiers, de monter des bancs d'essai de moteur, de faire de la moto, de s'initier à la conduite automobile, de faire des raids à la boussole en pleine nature, une nature qui, par parenthèse, reste un lieu de contemplation pour Michel Menu et ses hommes, si je puis dire, hein. On dirait maintenant de ressourcement. Naturellement, tout ça, toutes ces techniques scouts modernisées, ça attire énormément les adolescents. Il y en a beaucoup qui les attireraient encore maintenant, d'ailleurs. Ça les passionne, surtout que beaucoup d'entre eux viennent dorénavant de l'enseignement technique. Ça passionne peut-être moins les plus jeunes, hein, les 12-13 ans qui veulent jouer, eux. Et que les CP, les chefs de patrouille, les adolescents de 15-16 ans ont tendance à délaisser un peu. Mais ça n'est pas étranger au fait que globalement, les effectifs remontent fort à partir de 52-53, même dans les troupes non raidaires, qui sont influencées d'ailleurs de toute façon par les raidaires. Les troupes raidaires sont minoritaires, mais les autres, les voix savent ce qui se passe. Il y a un terrible matraquage, si je puis dire, qui se fait dans les revues scouts, et qui fait que les troupes, même non raidaires, si vous voulez, sont influencées par les méthodes pédagogiques inventées par Menu.
Michel Raveau.
Pour signaler simplement, les troupes raideurs, pour éviter l'élitisme de certains éléments, montent ensemble, c'est-à-dire toute la troupe est raideur et non pas des éléments, des individus qui seraient des super scouts, ce qui oblige les autres justement à se mettre au niveau de à peu près tout le monde.
Merci Michel Raveau. Rappelons que vous faites partie de l'équipe départementale de Lyon. Merci.
Bon, alors à l'usage et peut-être avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a du bon et du moins bon dans cette innovation. Il y a des unités où la charité active, la foi vécue, ça ne parle guère aux adolescents. Il y en a d'autres, ou peut-être ce sont les mêmes, où, disons, on la ramène quelque peu, où on joue des mécaniques. J'en ai connu, personnellement.
C'est quand vous étiez à Nice ?
Non, c'est plus tard. C'est quand j'étais vers la 57-58, quand j'étais moi-même chef de troupe à Paris, mais dans une unité non raideur. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je balançais le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y avait des choses tout à fait intéressantes dans les unités, dans la technique pédagogique des raideurs. Mais j'ai côtoyé des unités raideurs, j'ai même fait un week-end avec une unité raideur. Bon, personnellement, là je prends ça sous ma responsabilité, ça m'avait horripilé. Bon.
Merci Philippe Lanéry. Nous rappelons aux auditeurs qui prennent l'émission en cours de route que Philippe Lanéry, chercheur au CNRS, nous donne un condensé, au fond, en émission radiophonique, de son travail sur l'histoire des scouts de France, un gros livre paru aux éditions du Cerf.
Bien, alors donc, dans certaines unités raidères, pas toutes d'ailleurs, mais dans certaines unités raidères, il y a un côté militariste, si vous voulez, qui est assorti d'une certaine volonté de puissance, qui pour certains autres responsables scouts, laïcs ou religieux, n'est pas très sain. Et notamment à la route, qui est dirigée d'abord par Rigal, puis par une équipe dont les figures de proue sont Paul Rendu et surtout le Père Liégé, un dominicain qui est célèbre à l'époque, un théologien qui sera d'ailleurs expert plus tard lors de la préparation de Vatican II. Cette équipe de la route, responsable de la route au niveau national, va suivre une trajectoire diamétralement opposée à celle de la branche éclaireur. Au nom de l'Évangile, le Père Liégé et son équipe s'ouvrent à des préoccupations jusque-là qui sont marginales ou absentes de l'éducation, de la formation scout. Ouverture aux problèmes sociaux, par exemple, le problème de l'exploitation des travailleurs immigrés, le problème de la justice sociale. Ouverture aux problèmes politiques, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la vie de la cité, la place du citoyen. La route devient petit à petit une école de militants engagés dans l'action sociale. Elle joue un rôle important, parfois prépondérant, dans la création et l'ouverture de centres sociaux à cette époque, de maisons de jeunes plus tard. Et puis aussi, elle prend à bras le corps des problèmes qui sont les problèmes qui sont posés par la guerre d'Algérie, qui va servir de tout à fait de révélateur. Et là, la route s'engage à fond. Elle s'engage contre la torture, elle s'engage contre certaines méthodes de pacification, entre guillemets. Elle se situe de plus en plus clairement dans un courant politique mendésiste. Si bien qu'en fin de compte, le commissaire général Michel Rigal, face à deux orientations qui se révèle de plus en plus diamétralement opposée, celle de la branche éclaireur de Michel Menu et celle de la route du Père Liégé de Paul Rendu, il va être obligé de trancher sous peine d'un véritable éclatement du mouvement. Il doit provoquer, finalement, en 56-57, la démission et du commissaire national éclaireur Menu et de l'équipe route. Un coup à droite, un coup à gauche. En quelque sorte, on pourrait schématiser, et je dirais même caricaturer en disant ça. La démission de l'équipe route fait d'ailleurs beaucoup de bruit hein, dans les médias de l'époque. Moi, j'ai à titre de document, dans mon bureau, j'ai une bonne cinquantaine de coupures de presse qui vont de l'Humanité jusqu'à Aspect de la France, qui était un journal royaliste, si vous voulez, ou d'extrême droite de l'époque, en passant par Témoignages chrétiens et la France catholique, qui sont consacrés à la crise de la route, d'autant qu'elle intervient en même temps que la crise de la GEC.
Et c'était
le débat. Pas tout à fait, parce que le rôle de l'Église institutionnelle avait plus d'importance dans la crise de la GEC que dans la crise de la route.
Enfin, tous les mouvements d'action catholique, d'ailleurs, ont eu cette crise à ce moment-là. Et à la route, ça s'est produit pratiquement un an ou deux ans après les autres.
La crise, c'est toujours la même, savoir si un mouvement qui se dit chrétien, qui se dit d'Église, peut prendre parti de manière unilatérale pour une position politique, un combat social déterminé.
Voilà. Et ça pose un très grave problème, parce qu'enfin, c'est un problème qui est toujours actuel, d'ailleurs, dans l'Église. C'est pas spécifique au mouvement, c'est un problème permanent. Alors, il y a un dernier aspect des années 50. Les jeunes ou les moins jeunes responsables de base deviennent terriblement exigeants avec leurs aumôniers, au cours des années 50. Voire avec l'Église dans son ensemble. Ils veulent maintenant, ils exigent en quelque sorte des prêtres témoins de Jésus-Christ. Ils rejettent ceux qui font figure de contrôleurs ecclésiastiques. ou même ceux qui ne manifestent pas suffisamment leur foi. Il y a des aumôniers qui se font carrément flanquer à la porte d'unité scout. C'était impensable 10 ans seulement auparavant, n'est-ce pas? Cet idéalisme des scouts de l'époque, ça témoigne aussi d'un phénomène qui est beaucoup plus global, qui est celui d'une sorte de perte de pouvoir définitive de l'Église sur sa base laïque, pouvoir au sens où on l'entendait encore dans les années 30 et même 40, et notamment sur ses militants les plus ardents. C'est aussi à cette époque, d'ailleurs, on vient de le dire, qu'il y a une crise à la GEC, qu'il y a une crise à la CJIF, pour des motifs voisins. Les militants catholiques rejettent parfois brutalement les pesanteurs de l'autorité, de la tutelle ecclésiale, au grand scandale de certains prêtres ou évêques qui jugent ces militants ou ces jeunes responsables, arrogants, insupportables. Tandis que d'autres y voient au contraire un signe d'espoir, un témoignage de vitalité du peuple de Dieu. On est à ce moment-là quand on est à la fin du pontificat de Pie XII, époque pendant laquelle l'Église avait une attitude tout à fait défensive, une attitude dure d'ailleurs, rappelez-vous ce qui s'est passé. Mais on n'est plus très loin non plus de Jean XXIII, c'est-à-dire du Concile Vatican II. L'époque se rapproche. Voilà, alors moi je pense que, si on veut avancer, il faut... Là j'ai dit un petit peu l'essentiel, en essayant d'aller très vite. Il faut en arriver au un autre grand tournant, si vous voulez, après 45-46, après la crise de la route. Il faut en arriver au... La crise de la route, je l'ai beaucoup plus développé, bien sûr, dans le livre, mais parce que c'est un tournant capital. Mais il faut en arriver à un autre tournant, parce qu'ils vont succéder maintenant très vite, qui est celui de la réforme de 1963, qui coïncide d'ailleurs avec le Concile Vatican II. Concile Vatican II, c'est 62-65.
Alors, et la fin de la guerre d'Algérie pour la France.
Et en même temps, la fin de la guerre d'Algérie, là, ça va plutôt dans le sens de l'apaisement. Mais il y a d'autres problèmes qui prennent le relais. Alors, la réforme Le Bouteux, j'appelle la réforme Le Bouteux du nom du responsable de l'équipe nationale de la branche éclaireur, qui non pas va succéder directement à Michel Menu, parce qu'il y a eu une période intermédiaire, qui est celle de Jean Lagarde, qui était tout à fait un menuiste, d'ailleurs, si je puis dire. Mais cette réforme, c'est l'œuvre du successeur donc de Michel Menu. Et François Le Bouteux, lui, c'est un évolutionniste, tout à fait. C'est-à-dire qu'au contraire de Michel Menu, il modifie assez peu la méthode éducative scout. Mais par contre, il s'attaque aux bases fondamentales de cette méthode. Et il donne l'adolescent de 14 à 16-17 ans, et puis ce qu'on appelait à l'époque les rangers, maintenant on les appelle les scouts tout simplement, qui sont les préadolescents, en gros, de 12-13 ans. Alors en plus l'uniforme est modifié, les pionniers notamment abandonnent la chemise gris-bleu ou kaki beige de l'époque précédente pour une chemise rouge vif. Il faut noter du reste que malgré les apparences qui témoignent peut-être de l'esprit quelque peu provocateur de Le Bouteux, ce qu'on a appelé le néo-scoutisme des pionniers n'a rien de soviétique. Il est plutôt inspiré, si l'on veut rechercher une analogie, des explorers américains.
Michel Ravot, vous vous souvenez de cette époque?
Bien sûr, oui. La chemise rouge a fait beaucoup parler, évidemment. Elle s'est inspirée simplement des chantiers américains.
Mais il y a toute la partie immergée. La partie la moins visible, mais pourtant la plus importante et qui est peut-être moins bien connue. En fait, la réforme de 63 a été préparée depuis 1959-60 à peu près, date à laquelle Le Bouteux arrive à la tête de la branche éclaireur, en même temps d'ailleurs qu'un autre commissaire général adjoint qui s'appelle Émile Visseau. Tous deux sont d'ailleurs des enseignants venus de l'éducation nationale. C'est pas sociologiquement, c'est une origine tout à fait différente de leurs prédécesseurs.
C'est pas neutre par rapport à cette évolution.
Bien sûr, ce sont des enseignants, Le Bouteux notamment, qui n'ont pas trouvé dans l'éducation nationale, dans leur tâche de professeur, tout ce qui portait en eux comme projet pédagogique. C'est ça, le cadre était beaucoup trop étroit, ils étouffaient dedans.
En même temps, ce n'est pas l'école confessionnelle, c'est pas l'école dite libre. Donc, vous avez intitulé ce chapitre...
C'est un terme qui est peut-être le moins mauvais de ceux que j'ai essayé de chercher pour désigner cette évolution. Il est un peu insuffisant d'ailleurs. Enfin bon, il faut bien en trouver un. Alors, de quoi s'agit-il avec Le Bouteux? Il s'agit d'abord de privilégier la pédagogie des adolescents en les débarrassant d'un handicap, ou de ce qui est perçu à tort ou à raison, on en discute encore maintenant, comme un handicap, c'est le poids des plus jeunes. Cela, on s'en occupera plus tard, les 12-13 ans. Pour les responsables scouts, ce sont les adolescents qui sont prioritaires, et en cela d'ailleurs, mais en cela seulement, il y a continuité avec les raideurs de Menu. La méthode raideur était destinée à des adolescents, ce qu'on appelle maintenant des pré-adolescents. En cela seulement, parce que pour tout le reste, il y a une véritable rupture. Le Bouteux part du constat que le monde a changé vite dans les années 50, que la société a évolué et que les adolescents y étouffent. En raison notamment de l'urbanisation accélérée, de la technicisation de la... et puis aussi de l'allongement de la scolarité. Les adolescents se sentent socialement inutiles, dit le Bouteux, et je crois qu'il fait une analyse tout à fait pertinente pour son époque, en même temps qu'ils deviennent, en tant que classe d'âge, une cible pour les marchands et pour les médias. C'est l'époque de Salut les copains. C'est l'époque du rock, déjà. C'est l'époque de Johnny Hallyday, à ses débuts. Pour le Bouteux, l'adolescent, il faut le réconcilier avec lui-même et avec la société. Il faut lui faire prendre conscience de lui-même et de sa place sociale. Il faut lui donner le sentiment de son utilité sociale, individuelle et collective. Et pour cela, il faut le traiter en responsable, je dirais presque, ou en adulte. Et pour ça, y a deux moyens. Un, supprimer les tabous infantilisants, qui persistent souvent à l'intérieur du mouvement. Et deux, faire des chantiers d'utilité collective. Il n'y a rien de tel que la pratique pour que l'adolescent se rende compte qu'il est socialement utile. Alors, les tabous. Bon, par exemple, il y a trois tabous, je crois qu'on y a déjà fait allusion, qui sont restés vivaces dans le scoutisme. Il y a l'argent, il y a le sexe et il y a la politique. Pour l'équipe nationale éclaireur des scouts de France de l'époque, il ne faut pas fiche le camp devant ces problèmes. Ils intéressent les adultes. Il n'y a aucune raison qu'ils n'intéressent pas les adolescents. Et d'ailleurs, ceux-ci s'y intéressent de toute façon. On n'y peut rien. Mieux vaut donc canaliser cet intérêt en abordant de front ces problèmes, entre scouts, dans la clarté, au lieu de se cacher derrière les articles 9 et 10 de la loi scout, le scout est économe, le scout est pur. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu les problèmes quand même. Il ne suffit plus d'évacuer ces problèmes-là par un texte sacré. Donc on en discute. C'est l'époque, par exemple, où il y a de nombreuses unités, où il y a entre chefs d'unité et les grands adolescents, sur les relations garçons-filles, par exemple, on en parle. En ce qui concerne la politique, on va faire des enquêtes. On fait des panneaux informations à partir de coupures de presse sur des sujets brûlants, sur la guerre d'Algérie, sur le racisme, sur la décolonisation de l'Afrique noire. Et puis on en débat. Alors, pour les traditionnalistes du mouvement, c'est le virus de la route des années 50, n'est-ce pas, de la route du Père Liégé et de Paul Rendu qui est en train de contaminer la branche éclaireur. C'est un peu comme ça qu'ils réagissent. Et son équipe dirigeante ose même toucher au tabou des tabous, l'équipe de Le Bouteux, c'est-à-dire la loi. La loi scout, elle n'est pas abandonnée, bien entendu, pas du tout, mais elle est reformulée. Elle est actualisée. Le texte sacré est modifié, est allégé, est un peu assoupli. Il est rapproché des formulations anglo-saxonnes, ou du reste de celles des éclaireurs laïcs et protestants français. Et je dois dire d'ailleurs que c'est un des domaines où les guides de France avaient précédé les scouts de France. Elles avaient, 10 ans auparavant à peu près, reformulé la loi également à leur manière. Et par exemple, ça n'est pas la guide « Obéis sans réplique et ne fait rien à moitié », c'était « La guide sait obéir ». Bon, les scouts reprennent 10 ans après des formulations plus souples, ce que les guides avaient fait antérieurement. Alors tout ça, ça provoque un scandale. Ça provoque notamment, pour la première fois dans l'histoire du scoutisme catholique français, une scission. Une scission. Celle des scouts d'Europe de Pierre Géraud et Raoult, j'y insiste parce que les scouts d'Europe étaient antérieurs en tant que structure. Mais enfin, ils ont eu des tas de problèmes. Ils se situaient même, disons, entre guillemets, plus à gauche que les scouts de France dans les années 50. Mais ils ont eu des tas de problèmes et c'est une structure vide qui a été en 1963 récupérée par l'équipe dirigeante actuelle. Je crois que c'est à peu près toujours la même, en tout cas son responsable, celle de Géraud et Raoult. Alors, ça, c'est un drame, évidemment, pour le scoutisme, et c'est un drame qui se prolonge encore actuellement. C'est toujours très... Quel est l'homme divisé contre lui-même, n'est-ce pas? Quel est le mouvement aussi divisé contre lui-même, qui n'a pas... ça serait peut-être exagéré de dire qu'il porte des germes de destruction, mais en tout cas, ça lui pose un problème extrêmement grave. Les scouts de France, faire des chantiers d'utilité collective, ça, en soi, ça n'est pas tellement nouveau. Les raideurs de menu en ont fait dans le passé, et même les scouts d'avant la guerre. Mais on ne les fait pas du tout dans le même esprit. On trace et on balise des sentiers, on construit des piscines de plein air, on fait des adductions d'eau, on fait des ponts sur des torrents ou sur des rivières, on fait des petits équipements publics comme des abribus par exemple. Les scouts ont, je crois, été parmi les tout premiers en France à faire des abribus. C'était tout à fait un bénévolat à l'époque.
Alain Decaux était parmi les chefs à l'époque ?
Ah, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si Alain Decaux était scout, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si tel est le cas, ça a dû lui donner des idées. Bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne le fait plus tout ça, on ne le fait plus gratuitement, simplement parce que le scout est fait pour servir. On ne se fait pas payer quand même, mais encore que les pionniers soient invités à financer l'achat de leurs chemises rouges et de leur équipement collectif par ce qu'ils appellent à l'époque des extra jobs. Laver des voitures, faire n'importe quel travail pour un petit peu rémunéré en hiver par exemple, pour après tout, ça fait aussi partie de... du moins c'est interprété comme ça à l'époque, l'adolescent n'a pas à être totalement dépendant de ses parents. Bon, ça fait partie de l'éducation. Mais on se fait reconnaître hein, par le maire, par le préfet, le représentant de l'administration des eaux et forêts, par les journalistes, qui sont conviés à venir constater et, si possible, admirer le travail réalisé par les scouts. Des scouts qui ne sont plus dès lors les boy scouts naïfs et puérils dont l'imagerie populaire se repaît, mais qui ont réellement une utilité sociale. Alors voilà ce qu'il faut pour le Bouteux et son équipe, voilà ce qu'il faut aux adolescents de l'époque, voilà ce qui est susceptible de leur rendre confiance en eux-mêmes, et voilà aussi qui modifie singulièrement toute la conception scout du monde. Et oui, prenons la nature par exemple. Qu'est-ce que c'était que la nature avant les années 60 pour les scouts? C'était l'œuvre de Dieu, c'est l'article 6 de la loi. C'était l'œuvre de Dieu, c'est un lieu de contemplation et de prière, c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu d'émerveillement. À l'époque de le Bouteux, qui est aussi celle du viaduc de Tancarville, qui est celle du barrage de Serponçon, qui est celle de tout un tas de grands travaux à travers la France. La nature, c'est un objet de conquête et d'aménagement. Elle n'est plus tant à contempler, mais à transformer. Et c'est ça, bien plus que les chemises rouges, qui va faire soupçonner, à tort ou à raison, mais enfin je pense tout à fait à tort, l'équipe de Le Bouteux, de la part notamment des plus traditionnalistes du mouvement, d'être influencée par le marxisme. Ils le disent d'ailleurs de façon tout à fait claire. C'est bien sûr un soupçon tout à fait ridicule. Hein. Les pionniers de Le Bouteux sont tout aussi chrétiens que les raideurs de Menu, peut-être même le sont-ils davantage. Ils ont notamment cessé de se prendre pour des supermèdes, mais ils le sont tout à fait différemment.
C'est sur ce mot de « différemment » que nous allons arrêter cette quatrième émission sur l'histoire des scouts de France. Le suspense est maintenu. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec Philippe Lanéry, son gros travail « Les scouts de France » aux éditions du CERF. Merci.